France Inter.
Obsessionnel et aussi drôle que désespéré, l'écrivain Grégoire Bouillet, auteur de Rapport sur moi, L'invité mystère, Le dossier M ou Le cœur ne cède pas, vient nous rendre visite pour évoquer, entre autres, son dernier ouvrage, Le syndrome de l'orangerie, paru le 21 août dernier aux éditions Flammarion. Devant les nymphéas de Monet, le narrateur, le fameux détective Bimor, ressent plutôt que le syndrome de Stendhal qui vous écrase de beauté, un grand malaise. Les illustres fleurs d'eau que Monet a mis 4 ans à peindre pendant la Première Guerre mondiale, quasiment de date à date, ne sont pas ce paysage sublime et lénifiant dans lequel des milliers de spectateurs ont bercé leur âme. Non, ces gigantesques panneaux semblent cacher quelques secrets morbides et un nombre impressionnant de cadavres. À défaut de ne pouvoir épuiser ses questionnements existentiels et son bouillonnement intime, le détective Bimor s'adonne à une tentative d'épuisement des nymphéas, convoquant pour l'occasion Edgar Poe, Ben Stiller, une prisonnière, les camps de la mort et le professeur Tournesol et je ne pensais pas un jour accoler ces deux derniers. Bonsoir et bienvenue dans la 20e heure.
France Inter, la 20e heure, Eva Bester.
Bonsoir Grégoire Bouillet.
Bonsoir.
À quoi avez-vous le plus pensé aujourd'hui ?
Au fait que j'allais devoir parler à vous et venir à la radio.
Alors, vous paraissez en tout cas à travers vos écrits assez obsessionnel comme Monet avec ses nymphéas. Et est-ce que c'était d'une façon obsessionnelle que vous y avez pensé ?
C'est compliqué cette histoire d'obsession. En fait, ça part toujours d'une impulsion, alors ça peut être un sentiment, ça peut être un événement, ça peut être n'importe quoi, mais quelque chose qui me scotche, qui me sidère, qui me prend à revers et qui suscite chez moi une espèce d'incrédulité. Et là, en l'occurrence, c'était pour la première fois, parce qu'en bon parisien, je suis jamais allé à l'orangerie, enfin j'ai attendu des années avant d'aller à l'orangerie. Et là, allant à l'orangerie, j'ai eu la surprise d'éprouver vraiment une angoisse, un malaise devant les nymphéas de Monet. Et c'était tellement absurde, d'une certaine façon, tellement pas ce à quoi je m'attendais, en tous les cas, que ça a été le fiche. Je me suis dit, d'où vient cette angoisse? Est-ce qu'elle vient de moi? Est-ce qu'elle vient des nymphéas? Et si elle venait des deux? Et de toute façon, pour éprouver cette angoisse, évidemment, si les nymphéas les avaient déclenchées, c'est qu'elles portaient aussi en germe cette angoisse, etc. Et c'est parti comme ça. Et c'est vraiment un truc, moi j'écris pas un livre, je suis pas graphomane, j'écris pas un livre tous les ans et tout ça, il faut qu'il se passe quelque chose qui me saisisse et à partir de là je rentre dans l'écriture.
Il y a un papier du Monde là où ils font une allusion en disant que ce serait peut-être votre dernier livre.
C'est à chaque fois, après le dossier M, qui fait quand même 2000 pages de volume et tout ça, j'ai dit, c'est fini, je vois pas ce que je pourrais raconter d'autre, j'ai tout dit, je peux mourir en paix, j'ai gagné, je sais pas, ma place au paradis, ou je sais pas quoi, c'est bon, je peux mourir, mais à chaque fois, parce qu'à chaque fois, l'enjeu, c'est quand même d'aller au bout de soi, quoi, et à la fin, il vous reste rien. Et après, j'avais été moi-même surpris que l'histoire de Marcel Pichon, ce fait divers, me happe, et hop, je repars pour 800 pages, et là, pareil, je me disais, c'est bon, j'ai fait des livres qui, je pense qu'ils sont bons, je peux mourir. Et là, c'est pareil, quoi,
Alors, avant que vous mouriez, Grégoire Bouillet, on va parler évidemment du syndrome de l'orangerie, mais vous vous intéressez à Monet, et après le bac, vous êtes lancé dans la peinture. Mais les mots vous manquaient déjà terriblement. Vous n'avez aucun regret d'un point de vue pictural? Ça ne vous manque pas, l'image?
Non, parce que c'est... je vais juste faire une petite parenthèse, mais en fait, dans ma famille, ma mère avait capturé tout le langage. Voilà, le langage était elle, et donc elle laissait pas de langage ni à mon père, ni à moi, ni à mon frère.
Qu'est-ce que ça veut dire capturer le langage?
Elle prenait toute la place en termes de langage. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais...
Vous les avez racontés parfois, les détails,
raconté,
les tentatives de suicide régulières.
Elle prenait toute la place, et notamment le langage. Si je peux dire ça, j'ai pensé à ça il n'y a pas très longtemps. La première page que j'ai écrite du premier livre que j'ai publié, c'était en 2002, raconte une scène où un dimanche, ma mère déboule dans notre chambre à mon frère et à moi, et elle, un peu en furie exaltée, elle nous demande, est-ce que je vous aime? Et moi, je suis un peu embêté, donc j'ai 8 ans, j'ai une voix assez minuscule, je lui dis, peut-être maman que tu nous aimes un peu trop. Et là, elle supporte pas, elle veut se jeter par la fenêtre. Voilà. Et là, c'est un rapport au langage. C'est-à-dire que je dis un truc et ça provoque une catastrophe. Donc, dans ce sens-là, elle prenait tout le langage. Et après, c'est compliqué de dire la vérité. C'est-à-dire que si je dis la vérité, parce que c'était vraiment ce que je pensais, est-ce que le gamin de 8 ans, tiens, tu les as un peu trop, tu nous coupes, tu nous fous, on n'en peut plus de l'air, et bah, si c'est pas possible, à ce moment-là, bah, donc je me suis mis à peindre, à dessiner, d'abord dans mes cahiers d'écoliers, et puis après, voilà. Et pendant 10 ans, j'ai fait de la peinture, entre 20 et 30 ans.
Et pourtant, la vérité vous obsède, il paraît que vous méprisez Guy Debord. Justement pour cette raison.
Je méprise Guy Debord.
Oui, pour l'accès à la vérité, ah non, pour non, le fait qu'il ait un peu falsifié sa biographie, parce qu'il n'était pas aussi bon qu'il le disait dans une discipline.
Alors, non, au poker, voilà. En fait, j'ai eu de sources très fiables. Il a écrit un petit livre sur le poker qui est très très intéressant. Moi, je joue au poker et j'adore jouer au poker et je trouve ça très très intéressant. Et il se vante un petit peu de ses talents de stratège et de sources sûres. Et voilà, en fait, il n'était pas très bon, en fait, au poker. Mais alors, de là à dire que je mépriserais Guy Debord, c'est pas possible. Enfin, je trouve que c'est un immense penseur. C'est le type qui a quand même fait le diagnostic de la société comme personne avant lui, qui a été en accord entre ses actes et ses pensées. Je sais bien qu'on peut lui reprocher énormément de choses, son rapport à l'exclusion, etc. Mais bon, ben, voilà. Ce mec est un grand et moi il m'a aidé à penser. Enfin, voilà, quand il parle du bruit de cataracte du temps, c'est un poète. Enfin, c'est un poète qui a été conduit à faire de la politique. Mais d'abord, c'est un poète.
Grégoire Bouillet, j'aimerais qu'on aborde justement votre arrivée dans l'écriture quand vous étiez dans la peinture, justement en 86, après un séjour aux États-Unis. Une histoire d'amour vous a fait vous retrouver à la rue et vous avez commencé à avoir des crises de schizophrénie, à entendre des voix. Donc vous notiez les propos dans des carnets. Et ce rythme de monologue intérieur semble dicter votre écriture.
Oui, ça c'est très... C'est encore quelque chose que j'ai mis longtemps, hein, à... parce que ça c'est une histoire qui m'est arrivée au milieu des années 80. Effectivement, j'ai passé quelques temps dans la rue, et alors c'est paradoxal, mais moi j'étais... Je vivais dans la rue, mais je n'avais jamais froid, c'était une euphorie complète, parce que voilà, j'étais en pleine crise de schizophrénie. Effectivement, j'entendais des voix. S'il y avait une paille dans un verre qui pointait dans une direction, je suivais cette direction. Je suivais les signes dans la ville et voilà. J'ai eu la chance que ces voix ne m'incitent pas à faire des conneries, à tuer des gens ou à faire des horreurs, à me tuer moi-même, etc. Elles étaient extrêmement bien. Elles me disaient juste, il faut que tu ailles quelque part. Et je prenais les signes, je sais pas, un oiseau qui volait, il allait dans telle direction et ça pouvait m'emmener presque en banlieue, hein, à pied et tout ça. Et à un moment donné, je me réveillais. Et j'écrivais de façon frénétique. Et je pense que mon premier livre était extrêmement maîtrisé parce que justement, je me méfiais de ce délire du langage, de cette pulsion des mots. Et...
L'invité mystère ?
Non, le rapport sur moi, qui raconte ça, enfin voilà, en 2002. Mais et le livre est très très tenu, voilà, je me tenais à l'écart. Et c'est vraiment après une autre histoire d'amour, où là j'ai littéralement pu lâcher les vannes et renouer avec cette possibilité d'écrire dans un flux fabuleux. Enfin, voilà.
Là, vous parlez d'histoire d'amour, Grégoire Bouillet, et je voudrais savoir, puisque vous avez aussi fait une tentative d'épuisement d'une histoire d'amour dans le magistral dossier M, est-ce que ça vous a plus fait souffrir ou jouir dans la vie, l'amour ?
Je ne sais pas, c'est les deux, c'est lié, j'imagine, je ne sais pas. Tout ce que je peux dire, c'est que ce sont des moments exceptionnels dans la vie d'un individu. Voilà, c'est exceptionnel, on sort du... Pour moi, écrire et aimer, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire que ce sont des moments où... Alors moi, je suis comme tout le monde en temps normal. Je paye mes factures d'électricité, je râle sur les contingences, je pèse contre la politique. Enfin, je sais pas, là, j'ai plein de... Voilà, je suis comme tout le monde, enfin, je vais faire pipi et caca. Enfin, voilà, il n'y a pas
non,
de problème.
Non, pas vous.
Si, moi aussi, voilà. Mais alors, quand j'écris, ou quand j'aime, alors là, je continue de payer mes factures EDF. Mais ça n'a plus aucune espèce d'importance, parce que j'ai beaucoup mieux à faire, j'ai une histoire d'amour, j'ai un livre à écrire. Et pour moi, il y a des passerelles extrêmement fortes qui font que je suis dans un état d'exaltation, d'hyper-lucidité, d'hyper-vigilance, tout fait sens, tout vibrillonne, et voilà, moi je suis en quête de moments comme ça. Et l'écriture, me donne ça. Enfin, vraiment, ça me donne ça. Cet élan de vie, c'est une force de vie incroyable, quoi.
Tout à l'heure, vous disiez que vous étiez heureux dans la rue grâce aux crises schizophréniques. Ça revient souvent dans vos interviews, Grégoire Bouillet, de mélanger des moments qui pourraient être très malheureux avec des moments heureux. Dans une autre interview, vous parlez des tentatives de suicide récurrentes de votre mère, mais vous dites « j'ai eu une enfance très heureuse ». Et quand vous parlez d'écriture, vous dites aussi que c'est une joie pour vous d'écrire. Vous n'avez jamais ressenti justement cette caricature de douleur de l'écrivain ?
Jamais. Mais alors vraiment jamais. Pour moi, c'est la vie, pour moi, elle est difficile, enfin, comme pour nous tous. Enfin, je me sens contraint... minable 9 fois sur 10, voilà, je suis limité génétiquement, sociologiquement, je sais pas tout ce que vous voulez, même géographiquement. Et d'un seul coup, l'art, les arts, la littérature m'ouvre un espace qui est un espace de liberté où je peux tout m'autoriser. En maîtrisant, évidemment, ça. Mais donc, moi, je suis toujours à la remorque de mon désir. C'est mon inconscient qui écrit. Et moi, en fait, c'est le cheval qui écrit. Et moi, je suis le cavalier et je fais juste en sorte de rester en selle. Voilà. Mais ouvrir ses bandes dans la société, dans le monde, dans la vie courante, on ne peut pas ouvrir. On ne peut pas être heureux, en fait. Dès qu'il y a quelqu'un qui est heureux, on le regarde de travers. Dès qu'on rigole, etc. Donc, moi, je souffre beaucoup de ça, en fait, de ne pas pouvoir déployer de la liberté, de la joie, du truc, du délire. Enfin, voilà, c'est inoffensif, mais extrêmement précieux. Voilà, c'est une espèce de poésie de la vie. Et en fait, à chaque fois, il y a toujours quelqu'un qui vient vous dire « Ah mais non, ça se fait pas, faut pas dire ça, etc. » Au bout d'un moment, ok, on se prend une batte de pas, on paye cher et tout ça, on voit moins de gens, enfin voilà. Et la littérature, moi, ça me permet ça. C'est, personne vient me contester. Après, quand le livre est fini, on peut dire « Ah, on n'a pas aimé, vous abusez, etc. » Mais pendant le temps de l'écriture, moi, j'ai carte blanche, quoi. Et je veux absolument utiliser cette carte blanche à fond. C'est fait pour ça, quoi. C'est un lieu de liberté.
France Inter. La 20e heure. Eva Bester.
Grégoire Bouillet, dans votre livre Le syndrome de l'orangerie, où il y a beaucoup d'exergues, puisque vous êtes amateur, on trouve une exergue tirée du sixième sens de Shyamalan. Et pour créer un suspense fou, je dévoilerai pourquoi plus tard. On suit en tout cas dans cet ouvrage les pensées et l'enquête du détective Bimor, assisté de façon intermittente par Penny. Je suis également détective, figurez-vous, et ce nom qui apparaît déjà dans Le cœur ne cède pas est aussi un genre musical de Baltimore, une marque de cigarettes électroniques et un site pour se former à être instructeur sportif. Alors pourquoi ce nom Bimore, B-M-O-R-E ?
Alors j'ai longtemps refusé de le dire, parce que c'est un secret qui m'appartient et qui appartient au livre. Mais bon, le temps a passé. En fait, Bimore, Baltimore, ça vient de la série The Wire.
D'accord.
Voilà, qui est l'une des plus grandes séries de tous les temps, qui est absolument incroyable, chapitrée, le port, le trafic de drogue, l'école, la police, enfin, je sais pas, c'est merveilleux, d'intelligence, enfin, voilà. Et ça se passe à Baltimore. Et il y a un groupe de rap qui a fait un morceau qui dure 15 minutes, et ils ont le génie de cette langue américaine, c'est de transformer Baltimore en Bimore, c'est-à-dire soit mieux, soit plus. Voilà, et ça m'a tellement plu, et quand j'ai fait des cartes de visite pour l'agence de détectives, qui est une agence de détective fictive, mais qui a une adresse internet, qui a un site et qui a une carte de visite que j'ai distribuée au moment de la sortie de du cœur ne cède pas. Le logo, c'est le canapé sur lequel les dealers de The Wire font leur trafic de drogue dans un quartier, et c'est un vieux canapé orange, voilà. Et ça, c'est le logo de la Bimore Investigation.
Écoutez, merci de le dévoiler.
Oui, c'est une exclue.
Oui. Et alors, cette Penny qu'on voit de temps en temps pense que la vérité existe, le narrateur crée la vérité en la narrant, et ça ressemble parfois à des accès de folie, et évidemment, c'est un grand cliché que je m'apprête à dire, mais je veux dire, la lucidité, la folie, la frontière est très fine, finalement. Est-ce qu'on
est tous fous ? Oui, il y a même la folie résonante. voilà, qui est une catégorie psychiatrique tout à fait repérée. Moi, je m'intéresse beaucoup, alors pour des raisons que vous avez rappelées tout à l'heure, enfin voilà, mes petites crises de schizophrénie. Je m'intéresse beaucoup à l'écriture de la folie, enfin voilà, tout ce qui a pu être produit dans l'art brut. Alors, il y a beaucoup de choses sur la peinture, enfin voilà, mais la langue des fous, c'est incroyable, enfin, voilà. Et en même temps, moi je sais que j'écris des livres, c'est-à-dire que je suis du côté socialisé de la littérature, de l'écriture de la folie. Donc j'essaie juste de faire passer cette folie-là en la socialisant. Mais sans jamais perdre le fait que c'est du délire et vive le délire. Enfin, je trouve que je ne suis pas assez fou, en fait. Il faudrait être beaucoup plus fou qu'on est, quoi. On est beaucoup trop raisonnable. Enfin, plus de liberté, plus de joie, plus de folie. Enfin, dans le bon sens du terme. Enfin, le problème, c'est que là, les folies, elles sont morbides, mortifères, criminelles, assassines, délirantes dans le pire sens du terme. Et moi, je plaide pour la contrepartie positive.
Vous avez lu Pulp de Bukowski ?
Ouais, bien sûr, j'adore Bukowski.
Oui. Bah oui, moi aussi.
Woman.
Bien sûr, mais Pulp, c'est la parodie d'un livre de détective, ouais. Et on ne fait que s'amuser à chaque page. Et l'humour, l'amusement chez vous, c'est très important, Grégoire Bouillet. Est-ce que ça vous vient naturellement ou est-ce que vous le convoquez parfois ?
Non, ça me vient dans le temps d'écriture. C'est-à-dire que moi, je cherche à me faire rire, à m'enchanter, à jubiler, je cherche comme je l'avais écrit dans le deuxième, à jouir au-dessus de la ceinture. Voilà, moi c'est ça que je cherche dans l'écriture, donc ça passe par attendre de l'inattendu de ma part, me surprendre moi-même, pousser des portes que je n'aurais jamais eu l'idée de pousser, et ouais, voilà. Et je me souviens, il y a une phrase que j'adore, c'est dans l'aiguille creuse d'Arsène Lupin, qui est vraiment la grande confrontation, et c'est génial d'avoir fait ça, hein, Maurice Leblanc a fait ça, il a confronté son héros, donc Arsène Lupin, à Sherlock Holmes, Sherlock Holmes dans le livre, et Rouletabille, l'élève Beautrelet. Et c'est incroyable d'imaginer comme ça un auteur qui prend ses deux rivaux littéraires du moment, qui les met dans son bouquin, et à la fin du livre, il y a Arsène Lupin qui est quand même un grand orgueilleux, qui est magnifique, et dit « Moi j'ai un truc que vous... » Sherlock Holmes, donc sous-entendu Conan Doyle et Gaston Leroux, Rouletabille, il y a un truc que moi j'ai que vous n'avez pas, moi j'ai le primeau. C'est un mot incroyable, le primeau. Voilà, et moi je cherche le primeau et j'espère avoir le primeau.
C'est vrai qu'on n'entend que primeautier, mais jamais primeau.
Oui, qui est l'origine évidemment, qui a donné primeautier, mais primeautier a un côté léger. Le primeau, c'est beaucoup plus ambitieux, enfin, c'est une espèce de joie de vivre, de pulsion de vie. Parfois extrême, hein, enfin, qui peut aller jusqu'à l'arrogance et tout ce que vous voulez. Enfin, Arsène Lupin est quand même un drôle de bonhomme. Mais voilà, c'est un excès, c'est assez nietzschéen, en fait, comme concept. Et moi, je trouve que... Voilà. Et donc moi, j'essaie d'avoir le primeau. J'adore ça.
Ron, something fantastic's happened. Those photographs in the park. Fantastic. Somebody was trying to kill somebody else. I saved his life. Listen, Ron, there was a girl. Ron, will you listen? What makes it so fantastic? Look, hang on, will you, Ron? There's somebody at the door.
1966, Blow Up d'Antonioni, dans lequel le héros se rend compte que de banales photos prises dans un parc, en les agrandissant, révèlent peut-être un meurtre. Grégoire Bouillet, votre livre est un livre sur le regard et le fait de zoomer sur une image. Justement, les grands panneaux de l'orangerie représentant les nymphéas de Claude Monet, choc pictural pour Bimore qui y voit des cadavres. Vous y avez passé du temps devant ces grands panneaux pour écrire le livre ?
Oui, mais pas tant que ça. En fait, je suis parti du sentiment que, comme je le disais, hein, enfin, que j'ai éprouvé une espèce d'angoisse qui était en contradiction totale avec le sentiment général qui est que c'est beau, c'est une ode à la paix, au pacifisme, à la méditation intérieure. Voilà, c'est paisible, c'est beau. Enfin voilà. Et moi, mon sentiment est tellement... Et là, à ce moment-là, c'est plutôt Grégoire Bouillet qui a ce sentiment-là. Et je me souviens très bien, au moment de la visite, avoir pensé, et heureusement que j'ai pensé à ça, en fait, dans ces grands panneaux, donc c'est quand même deux immenses salles, il y a ces 200 mètres carrés de peinture, enfin de panneaux, enfin voilà, et avoir pensé à Blow Up, au fait que dans ces grands panneaux, si on zoomait, ici ou là, ou partout, ou tout le temps, en fait, on découvrirait peut-être les pieds ou un cadavre caché sous un nénuphar, ou même ce sera un nénuphar, etc. Et en fait, ça, vraiment, Blow Up m'a aidé à poser les bases. Et c'est à partir de là que Bimor est arrivé. J'ai dit, OK, je vais confier l'enquête à Bimor. Et Penny, elle trouve ça débile. On peut pas dire que, enfin, voilà, c'est ce chef-d'œuvre, de l'impressionnisme, ou même du post-impressionnisme, qui a inspiré Rothko, Pollock, tout l'expressionnisme abstrait américain, enfin, voilà, qui est une œuvre mondialement célébrée, en fait, soit une œuvre de mort. Voilà, c'était trop. Et Penny, elle marche pas dans la combine. Mais Bimor, oui.
Oui, Penny, elle se fait la malle pendant une bonne partie du livre.
Oui. Ouais. Mais en même temps, c'est. En fait, Penny, c'est l'âme de Bimor. C'est-à-dire, c'est son référent. Elle n'arrête pas de s'adresser à. Ah, tu vois pas. Si t'étais là, tu dirais. Enfin, voilà, tiens, il s'adresse à elle. Enfin,
Il y a une réflexion très intéressante sur le regard. C'est la question principale de Bimor, c'est que savez-vous des Nymphéas et de Claude Monet, hormis ce que tout le monde en dit? Et en fait, c'est pas évident de tenter de s'affranchir des scories de tous les témoignages antérieurs. Finalement, c'est pareil pour l'écriture, c'est-à-dire rendre nouveau quelque chose qui a été utilisé par tous.
C'est le véritable enjeu du livre. L'enjeu du livre, c'est le regard et c'est surtout le langage. C'est-à-dire, comment arriver... C'est la locution latine, sapere aude. Voilà, de Horace, qui dit « Ose savoir, ose penser par toi-même, ose te servir de ton intelligence. » Donc c'est Horace, Kant et tout ça. Bon. Et en fait, c'est un exercice que chacun devrait s'astreindre à cet effort-là, à penser par lui-même, et non pas penser ce que tout le monde... Alors, quand on va dans une exposition, on regarde un tableau, et en fait, on ne sait jamais ce qu'on voit. Ce pourquoi on se précipite pour regarder le cartel, le nom de l'œuvre, le titre, l'année, tout ça. Et à partir de là, on a l'impression de savoir quelque chose. Et comme on sait quelque chose, ce savoir-là, on a l'impression de voir quelque chose. Mais en fait, c'est faux. On voit à partir des mots qui sont extérieurs. Et moi, tout le travail de ce livre, ça a été, si je supprime tous les mots qui concernent Monet, l'impressionnisme et les Nymphéas, quels mots, moi, je mettrais? Quelle serait mon expérience personnelle, individuelle, mobilisant mon intelligence, ma vue, mes sens, ma culture, mon histoire? Voilà. Et à la fin, j'arrive quand même à un corpus de mots. Donc, au début, c'est des mots... OK, alors, plutôt que de mettre méditation, tranquillité, paix, paisible, impressionnisme, moi, j'ai les mots angoisse, mort, etc. Donc, c'est un peu pourri. Et je dois dire que moi-même, au début, je croyais pas vraiment à cette interprétation. Je pensais vraiment que c'était que mon angoisse et que je délirais. Et le truc, c'est que plus j'ai enquêté, plus Bimor a enquêté, et plus j'ai découvert qu'il y avait réellement un inconscient morbide dans ces tableaux, que Monet y avait mis énormément de cadavres, et plus le livre avançait, et plus j'ai compris que mon inconscience était connectée à l'inconscient de l'œuvre. Parce que les œuvres ont un inconscient. C'est pas juste la surface, alors vous voyez, c'est un arbre et tout ça. Moi, le truc qui m'a fait rire, c'est d'aller à Giverny, et de voir que les gens, manifestement, adorent Giverny, qui est une sorte de furie horticole. C'est vertigineux, quand même. Pour aller une fois à Giverny... Il y a quelque chose de monstrueux dans cette volonté de tout fleurir. Mais il y a quelque chose de magnifique, de monstrueux, mais de magnifique. Et on sent vraiment, moi je sentais que les gens préféraient mille fois le jardin au Nymphéas de l'Orangerie. Parce que justement, c'est l'histoire de l'art. L'art, c'est un écart à la réalité, en plus ou en moins. Voilà. Et il y a un inconscient dans les Nymphéas qu'il n'y a pas dans, qu'on ne peut pas avoir en tous les cas à Giverny.
J'imagine que vous êtes évidemment documenté sur Monet pour l'écriture de ce livre. Comment imaginez-vous cet homme qui était surnommé par Clémenceau, vous le rappelez, « mon vieux hérisson sinistre
» alors moi j'ai pas du tout fait une bio de Monet, ça m'intéresse pas. Enfin, moi j'ai beaucoup de mal avec les biographies où on se met à la place de la personne célèbre dont on parle. Enfin, voilà. Par contre, enquêter sur Monet, et vraiment les témoignages convergent et tout ça, et on voit comment il vivait, et en fait c'est vrai que dans sa correspondance, il n'est jamais content. Il râle tout le temps, il se plaint tout le temps, mais il a eu en même temps beaucoup de malheur, mais il en a eu. Enfin, voilà. Mais vraiment, le type n'est pas spécialement sympathique, quoi. Enfin, mais en même temps, c'est un intuitif, c'est un émotif, et puis il a révolutionné la peinture, et pas seulement de la façon dont il imagine. Moi, ce dont je me suis aperçu, c'est que au moment où il fait ses Nymphéas, c'est quand même les débuts du surréalisme, c'est le dadaïsme, c'est Malevitch, c'est Kandinsky, et on a tellement l'impression que c'est un homme du 19e, alors que c'est un homme du 20e, il a posé les bases, vraiment, et quand il a commencé à faire des séries de tableaux, mais c'est Warhol, c'est tout l'art contemporain, et ça, je ne m'étais pas du tout rendu compte de ça, pas de... Et alors que ce type n'est pas du tout un théoricien, il n'a rien théorisé du tout, mais c'est lui qui est au fondement quasiment de l'art contemporain. C'est incroyable ça.
la 20e heure, Eva Bester sur France Inter.
Grégoire Bouillet, on évoque avec vous votre livre « Le syndrome de l'orangerie », dans lequel un détective enquête sur les morts contenues dans les nymphéas de Monet et parle parfois de lui. Donc évidemment, on pense à vous. Je le cite. Moi, je pense à vous. Alors, je ne prends pas de risque. Mon existence est une erreur de bout en bout. Toutes mes amours en témoignent, ma naissance aussi.
Oui, une autre question ?
Oui. Où que porte le regard, tout court à sa ruine, suscite angoisse et sidération, s'avère d'une tristesse infinie.
Eh bien oui, je ne pourrais que redire ce que j'ai écrit.
Et mais vous jubilez pourtant. Les sources de joie, quelles sont-elles ?
Ah, mais c'est ça le secret. Il est là le secret. Je ne fais pas partie des gens qui vénèrent le malheur. Pas du tout. Évidemment, j'ai une compréhension, une empathie pour le malheur, mais moi, je suis un militant de la joie. Et la joie, ce n'est pas la joie qui rote et qui pète. Hein. Ou c'est pas la joie qui nie le tragique de l'existence, c'est la joie qui embrasse le tragique de l'existence.
Donc très nietzschéenne à nouveau.
Oui, Clément Rosset a magnifiquement parlé de ça.
Il semblait ressentir moins de joie quand même, Clément Rosset.
En tous les cas, dans ses textes, oui, il prend moins de liberté, mais c'est un philosophe aussi, c'est pas la même chose. Mais ici, il a écrit des textes sur ses rêves qui sont très drôles. Et ça fait... la littérature, les écrits, les livres, ça sert aussi à ça. D'un seul coup, j'entendais quelqu'un qui mettait des mots sur ce que moi j'éprouvais. C'est-à-dire, je ne comprenais pas, moi je ne suis pas insensible du tout au malheur, mais je ne suis pas esclave du malheur. Je ne vénère pas le malheur. Je trouve que plus on vénère le malheur, plus on appelle le malheur.
Et vous ne faites pas d'efforts pour vous en éloigner ? C'est naturel chez vous ? C'est aisé ?
Ouais, alors il paraît que c'est une légende familiale, mais j'ai pas de raison de. Il paraît que quand je suis né, je riais. Je braillais pas, je pleurais pas, je riais et les sages-femmes m'adoraient. J'étais devenu la mascotte de la maternité. Donc je pense que j'ai été heureux de vivre, même si ça s'est gâté, évidemment après, comme pour tout un chacun. Mais j'ai ce fond quand même de joie, oui, ce qui est une joie de vivre au-delà du tragique de l'existence, des problèmes, des. Du malheur, même de mes malheurs à moi, j'ai quelque chose qui est impérissable.
Alors, ça semble très enviable et merveilleux, mais alors parlons angoisse tout de même, Grégoire Bouillet.
Non, parce que ça rend très seul, en fait.
Qu'est-ce qui rend seul ?
Le fait d'avoir un fond de joie.
C'est vrai ?
Ah bah oui, le malheur, vous
on le partage facilement ?
Non. Bah oui, le malheur se partage, la joie, ça se partage pas. Et l'une des grandes difficultés que moi je peux avoir, c'est d'avoir des bonheurs et avec qui je peux les partager. Parce qu'en fait, essayer de partager un bonheur, vous verrez, mais les gens sont très très hermétiques. Un malheur, même si c'est faux, mais il y a quand même de l'empathie, il y a quand même... Et puis on existe à travers le malheur.
Oui, mais c'est très à la mode en ce moment, c'est un peu ennuyeux.
C'est très ennuyeux et c'est surtout philosophiquement très problématique collectivement, parce que si la base du collectif c'est le malheur, on va dans le mur. Donc moi j'ai beaucoup de mal, j'adore être heureux et j'ai beaucoup de mal à l'être avec les autres.
L'anxiété, dont vous avez fait un moteur aussi, Grégoire Bouillet, et le narrateur en parle aussi dans le syndrome de l'orangerie, il dit que faire cette tentative d'épuisement des nymphéas, ça revient en fait à épuiser sa propre angoisse. Est-ce que c'est possible d'épuiser sa propre angoisse ?
On peut essayer en tous les cas.
Vous le faites ?
Oui, d'abord, je ne le pense pas comme ça. C'est-à-dire que moi, je me lance, je suis très premier degré. Hein. C'est-à-dire je pars d'un sentiment, une angoisse, et puis une image, il y a un cadavre dans les nymphéas, et puis je me lance dans l'aventure, et je vois où elle m'emmène. Et je vais jusqu'au bout mais je me dis pas... Alors après, rétrospectivement, oui, je pense qu'il y a toujours un combat contre... écrire, c'est une force de vie contre les pulsions de mort, c'est contre l'angoisse, et c'est contre la mort. C'est d'abord contre la mort, je pense, fondamentalement.
Et pourtant, vous soulevez beaucoup de sombreur, toujours avec cette pulsion de vie que vous décrivez. Et justement, j'aimerais bien qu'on parle de Monet et de son lot de drames, puisqu'il perd une femme qu'il aime, deux fils, un frère, il devient aveugle, et il lit les couleurs. Ça, je l'ai appris grâce à vous. Est-ce que vous pouvez raconter ça ?
Oui, alors, dans les années 1890, il commence à avoir un problème de cataracte, et qui ne va pas arrêter de s'amplifier jusqu'à ce qu'il soit quasi aveugle. Alors, son grand ami Clémenceau le presse de se faire opérer. Il lui présente une sommité de l'époque de la cataracte qui s'appelle le docteur Coutelas. Et moi, je comprends Monet qui dit « Non, je ne vais pas me faire opérer des yeux par un mec qui s'appelle Coutelas. » c'est juste pas possible. Donc, il mettra des années avant d'accepter et il devient quasiment aveugle. C'est-à-dire qu'il n'a plus qu'un dixième à un œil et deux dixièmes, je crois, à l'autre. Enfin, il ne voit vraiment plus rien. Et donc, c'est très très intéressant, c'est-à-dire que pour se repérer, on lui demande « mais comment vous faites pour peindre ?» parce qu'il continue de peindre. Et ben, il dit, je me repère avec la disposition que j'avais l'habitude de placer sur ma palette, les couleurs. Donc je sais que je vais du rouge au bleu, dans cet ordre-là. Et puis je lis, parce que je ne vois plus les couleurs, parce que la cataracte, il voit tout en jaune. Tout devient flamboyant, le bleu devient un vert fluorescent. Enfin, tu vois, voilà, c'est totalement dépravé comme couleur. Et donc, pour se repérer sur la réalité des couleurs, ben, il lit les tubes. Et il ne faut jamais oublier que l'impressionnisme, c'est quelque chose dans la création artistique, hein, on oublie très souvent, mais on pense qu'il y a des génies qui sont arrivés, et puis c'est eux qui ont tout fait. Mais en fait, vous n'avez pas d'impressionnisme, vous n'avez pas de monnaie, si vous n'avez pas une entreprise qui a créé les tubes de couleurs, qui ont permis d'un seul coup que des peintres puissent aller dans la campagne avec un chevalet et des tubes de couleurs. Vous n'avez pas Jimi Hendrix sans la guitare électrique. Et il faut à un moment donné qu'il y ait une invention technique pour que d'un seul coup, l'art se régénère, trouve de nouvelles voies, etc. Et dans le cas de l'impressionnisme, ça a été vraiment l'invention du tube de couleurs. Voilà.
Mettons le cuir d'Apache et les pouces de fer. Alors toujours
votre choix musical qu'on entend Grégoire Bouillet, Washington, Jean-Louis Murat sur l'album live Murat Ghost Town.
Ah, c'est magnifique. Enfin, voilà, moi je fais partie des gens qui ont été très tristes quand Murat est mort à la fin de l'année, avant l'été. Et je trouve que c'est, je sais pas, dans la chanson française rock, il y a pas mieux que lui. Faut écouter les paroles, quoi. Faut écouter la parole, la musique. Enfin, j'ai beaucoup nagé cet été et j'aime pas particulièrement. Je m'ennuie quand je nage. Voilà, je fais partie des gens. Mais alors j'ai découvert un truc qui est absolument génial, c'est des écouteurs de nage. Le son est incroyable, c'est comme les premiers Walkman dans les années 80, le son est d'une netteté et ça. Et donc là, je peux nager vraiment. Et je me passais en boucle tout l'album Murat Ghost Town de Murat, tout Murat, parce que nager en écoutant du Murat, mais c'est être un dauphin, quoi. Enfin, c'est juste, il y a une émotion, il y a une écriture, voilà, ce mec est, c'est une perte qu'il soit mort. Mais soyons joyeux. Écoutons-le.
Oui. Alors un autre mort.
D'ailleurs, je précise qu'il va y avoir une soirée. Pardon, j'en profite. Oui, excusez-moi, allez-y. Mais il va y avoir une soirée à la Maison de la Poésie en hommage à laquelle je vais participer. Ça va être très bien, il va y avoir plein de monde, Rick Reinhardt, Olivier Adam et tout ça. Enfin, je sais pas là. Et moi, je vais faire un truc qui me plaît beaucoup. Pardon, je suis désolé.
Ah non,
mais,
allez-y, je vous en prie.
Parce que c'était un teigneux, Murat. Il disait vraiment des vacheries sur tous les chanteurs français. Alors moi, j'ai essayé de faire un petit dialogue entre les paroles de ses chansons et toutes les saloperies qu'il a pu déverser sur Renaud, Claude François, enfin tout ce que... Voilà.
J'ai lu que vous aviez aussi, Grégoire Bouillet, un amour inconditionnel pour Frank Zappa.
Ah oui, mais ça, c'est les... Ça, c'est... Vous êtes petit et d'un seul coup, vous entendez une musique, vous voyez un truc et ça vous brise tous les cadres de pensée. Ça vous emmène ailleurs. Moi, je me souviens, la première fois que j'ai vu un film de Godard, c'était à la télévision, ça m'a halluciné. Ça m'a rendu heureux. J'ai rien compris. C'était La Chinoise, qui n'est pas non plus son meilleur, mais quoi, on peut faire ça au cinéma? Et Zappa, c'était... On peut faire ça, on peut rire en faisant du rock'n'roll, en étant virtuose. Et en plus, il y a une dimension éthique. C'est-à-dire que Zappa, c'était vraiment quelqu'un qui refusait d'entrer dans le marché de la jeunesse et de devenir une idole de la jeunesse. Donc, il y avait une dimension politique. Et moi, je suis très sensible aussi à cette dimension-là. Et ce mec était virtuose. Et le truc, moi, qui me bottait le plus, c'était qu'il pouvait enchaîner deux morceaux sur une note. C'est-à-dire passer d'un rythme sur une note et d'un seul coup, il passait à autre chose. C'est prodigieux. Enfin, il faut prendre les génies, quoi. Enfin, si vous cherchez quoi lire, quoi écouter, prenez les bons, quoi.
Je rebondis juste sur Jean-Luc Godard, que vous avez cité à plusieurs reprises dans l'émission, Grégoire Bouillet, puisque je crois que vous avez été animateur périscolaire et que vous avez emmené un groupe d'enfants de 6 à 12 ans voir Je vous salue Marie, Jean-Luc Godard.
Oui, c'est vrai. Ça a été une expérience hallucinante parce qu'effectivement, il y a 30 gamins, 6 à 12 ans. Et quand on est arrivé au cinéma, les gens n'ont pas voulu nous faire rentrer. C'est-à-dire qu'ils nous ont dit, mais c'est un film de Jean-Luc Godard, vous savez? Ben, je dis, oui, je sais bien. Non, mais ils ont 6 ans, 10 ans. Ben oui, alors c'est pas interdit au moins de 18 ans, c'est pas marqué interdit. Donc on peut y aller. Il a fallu que le directeur de la salle vienne et tout ça. Et après, et le truc qui a été fou, c'est que donc le film commence. Avec les autres animateurs m'en voulaient à mort parce qu'ils étaient, tout le monde flippait comme des malades. Il a fallu séparer les gosses et tout ça. Et moi, j'avais pris les grands. Alors les grands, il y en avait qui étaient plus grands que moi. Et au bout d'un quart d'heure, ils ont pété les câbles. Ils ont pété un câble. C'est-à-dire que pour eux, c'était. Il y en a un qui s'est retourné vers moi. Je savais bien que c'était un film d'amour. Un truc. C'est vraiment, ça les bousculait dans leur structuration de gamins de 10, 12, 13 ans. Et voilà. Donc il a fallu que je les sorte. Et on a attendu les autres, voilà, dans un square à côté. Et quand les autres sont sortis, alors c'était drôle, les 6-8. Alors eux, ils auraient vu ça, ils auraient vu Oui, oui, la voiture jaune, c'était pareil. Ils n'ont rien capté. Et ils ont vu des images, ça bougeait, de la musique, etc. Mais alors les 8-10, ils sont sortis. Et alors là, ils discutaient, mais mieux que s'ils avaient vu le dernier blockbuster. Ah mais si, mais Gabriel, c'est l'ange parce que c'est lui qui arrive en avion et tout ça. Mais non, c'est pas possible. Et Marie, c'est pas... Et pendant tout le trajet qui nous emmenait au square, eux, ils étaient à fond. Et c'est là où j'ai compris que en fait, Godard, il a 8 ans, quoi. Voilà, c'est le public, le bon public pour être Godard. C'est... Donc tous ceux qui ont tué l'enfant de 8 ans qui est en eux, bah, ils comprennent rien à Godard. Mais si vous n'avez pas tué votre gosse de 8 ans en vous, ce que je vous souhaite, eh ben, à ce moment-là, vous comprenez Godard.
Dans la 20e heure, sur France Inter. Grégoire Bouillet, je vous ai demandé une découverte pour les auditeurs, et vous avez choisi la série 1883 de Taylor Sheridan.
Oui, alors 1883, c'est le préquel de la série Yellowstone, mais c'est pas ça qui est intéressant. Donc c'est l'histoire de pionniers qui vont conquérir l'Ouest en 1883, et voilà, dans une caravane et tout ça. Et moi, et notamment par les temps qui courent, j'avais jamais vu un personnage de jeune fille comme ça. C'est prodigieux d'avoir écrit un personnage comme ça. C'est-à-dire que cette jeune fille qui vient de la côte Est va faire l'expérience de l'inconnu, de l'aventure. Et elle est heureuse, elle frémit de partir à l'aventure. Et quels que soient les dangers, il va y en avoir, il va y avoir des morts, il va y avoir des indiens, des cow-boys, elle va traverser tout ça avec un vouloir vivre qui n'est pas une histoire de... C'est pas améliorer la société... Le désert, l'Ouest, c'est dur, c'est sauvage, c'est dégueulasse, c'est pourri, c'est plein de morts, c'est plein de boucheries et tout ça. Mais quelle joie de vivre, de se sentir vivant.
En parlant de mort, quel est votre rapport à la mort, Grégoire Bouillet, vous qui avez pris une photo de votre mère morte et qui êtes contre l'expression « faire son deuil », qui aurait pu être le titre du livre, justement, pour en finir une fois pour toutes.
Oui, c'est parce que ça ne veut rien dire, faire son deuil, on vous le dit, c'est comme être résilient, enfin, tous ces faux mots-là qui encombrent la réalité des expériences que nous vivons, faire son deuil. Voilà, okay. Alors, donc, faire son deuil, et puis une fois que vous avez fini, faire votre deuil. Et mon livre, mon enquête sur Monet, en tous les cas, démontre qu'il n'aura jamais fait son deuil de sa première femme, Camille. Il n'a jamais fait son deuil. Et son deuil, il l'a mis dans ses nymphéas, il l'a mis dans énormément de choses. Donc, on ne fait jamais son deuil. Voilà. Après, les morts qui nous accompagnent, la dead people, il faut bien qu'ils soient quelque part. Ils nous accompagnent, il faut bien les mettre quelque part. Mais on ne fait jamais son deuil. Donc, il faut arrêter comme si, à un moment donné, il y avait une possibilité. Allez, du jour au lendemain, on a fait son deuil. À un moment donné, on peut moins souffrir. Mais les morts nous accompagnent jusqu'à la fin, voilà. Donc, moi, mon rapport à la mort, c'est un rapport assez vivant, je pense.
J'ai cru comprendre. Vous dites, Grégoire Bouillet, écrire, c'est découvrir ce qu'il y a de latent dans ce qu'on essaie d'écrire. L'écriture, c'est le seul moment où on peut briser le faux dont on est constitué. Est-ce que vous avez trouvé qui vous étiez ?
Non, bien, ça ne m'intéresse pas du tout.
C'est vrai ?
Alors là, j'ai une généalogie familiale particulière, mais vraiment mon identité, savoir qui je suis, ce que je fais, je suis ce que je dis, mais il n'y a pas d'ontologie de l'identité. Vraiment, je pense que c'est une erreur absolue de s'interroger sur mais qui suis-je et tout ça. Mais tu es qui tu es ce que tu fais, tu es ce que tu dis, tu es ce que tu ne fais pas. Ça, c'est très important aussi. Moi, je suis énormément ce que je ne fais pas. Ce que je refuse de faire, ou de dire. Alors, vous allez vous demander alors, qui je suis, mais alors, là, maintenant, mais dans 10 ans, vous êtes quelqu'un d'autre. Et puis, quand vous êtes, avec des amis, vous êtes quelqu'un. Quand vous êtes au boulot, vous êtes quelqu'un d'autre. C'est Clément Rosset dit ça. Notre identité est ondoyante et imperceptible. Tenons-en-nous là, et c'est très bien. C'est très bien comme ça. Il n'y a pas besoin de fixer les choses comme si on était des papillons qu'il fallait scotcher avec une épingle.
Dans votre livre, Grégoire Bouillet, il y a des chapitres avec des chiffres décimaux et des foisonnements de parenthèses. Et je voulais savoir, là vous parlez de la multiplicité d'identité, est-ce que vous êtes un être fragmenté ?
L'être schizophrène en moi vous dirait oui.
Et l'autre ?
Il essaie de recoller les morceaux. Je ne sais pas comment dire, oui. Mais c'est cette histoire de 2.1, 2.2, etc. Moi, c'est quand j'avais lu le Tractatus Logico-Philosophicus de Wittgenstein.
Bien sûr, dont vous citez « Les limites de notre monde sont les limites de notre langage ».
Oui, qui est pour moi, on peut la répéter, vous voulez bien la répéter, parce qu'elle est tellement... si jamais les gens devaient retenir qu'une seule chose, c'est cette phrase.
Vous pouvez la répéter, vous, d'accord. Parce que c'est vous qui la citez souvent.
« Les limites de mon monde sont les limites de mon langage ». Et à la fin, je me demande même si la véritable phrase de Wittgenstein, ce n'est pas « les limites de mon langage sont les limites de mon monde ». Et parce que ça marche dans les deux sens. Mais une fois qu'on a compris ça, on a compris énormément de choses. C'est-à-dire que, donc on a un rapport. Notre monde est considéré par notre langage. Et plus on rétrécit le langage, plus on l'appauvrit, plus le monde se rétrécit et s'appauvrit aussi. Plus on l'étend, plus le monde grandit. Écrire, ça consiste en ça, en cela précisément. Ne pas appauvrir le langage, mais repousser les limites.
Lisons, lisons, lisons. Qu'est-ce que vous lisez en ce moment, Grégoire Bouillet ?
Qu'est-ce que je lis je vais pas rire, mais j'ai relu mon livre.
Ah oui.
Oui, c'est con, c'est vrai, parce que il est fini il y a 6 mois, je suis parti en vacances, j'ai vécu d'autres trucs en attendant, et j'avais un peu oublié, quoi. Donc je me suis dit, il faut peut-être que je sache ce qu'il y a dans ce livre, parce que en fait, quand j'écris, c'est un moment existentiel. C'est-à-dire que ma vie devient le livre que j'écris, et j'écris en même temps que ma vie se déroule. Et les deux s'en contaminent. Et donc, mais c'est 14 heures par jour. C'est-à-dire que je suis un furieux dans ce... ça devient ma vie. Moi, j'écris pas 2 heures par jour, et puis après, je vous parle des gens, ou tout ça. C'est très névrotique, ou je ne sais pas quoi. Et donc, et ça dure un an et demi, 3 ans avant, ou 5 ans avant. Et une fois que c'est terminé, c'est comme une histoire d'amour. L'histoire d'amour est terminée, quoi. Et donc... Donc je me dépêche de la laisser derrière moi. Donc c'est toujours un petit peu compliqué. Donc j'avais assez vite oublié, parce que je vais essayer de me donner de l'avenir quand même, un peu.
Oui, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Grégoire Bouillet.
Merci à vous.
Votre ouvrage, Le syndrome de l'orangerie, est paru aux éditions Flammarion. Cette émission a été réalisée par Lola Costantini, préparée par Céline Villegas, Louise Lemoine et Franck Olivard. À la programmation musicale, Juliette L'Orphelin, à la technique, Alix Barrois.